Le sort des persécuteurs voici, j'ai créé le forgeron qui souffle les charbons dans le feu et fait sortir un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour détruire. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, Ésaïe 54, 16, 17. À moi la vengeance et la rétribution, leur pied glissera en son temps, car le jour de leur calamité est proche, et ce qui doit leur arriver peut venir promptement. De 32, 35 rempli de toute injustice, fornication, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie de meurtre, de crêle, de tromperie, de malignité, Romains 29, la vengeance du Seigneur, le dernier acte du rôle sanglant du gouverneur Endicott dont il est question, fut le cruel fouet infligé à Edward Wotton à Boston, déjà relaté, car le temps était maintenant venu qu'il quitta la scène, pour rendre compte de son extrême sévérité devant un autre tribunal que celui de sa cour sanglante et barbare. La mesure de son iniquité était désormais comble, et il fut frappé d'une maladie répugnante, au point qu'il empestait vivant, et mourut ainsi dans la pourriture, son nom devant répandre une mauvaise odeur à travers les siècles à venir. Comme tant de ses victimes reçurent d'horribles coups de fouet sur le dos, leur arrachant et déchirant la peau et les muscles, dans une étrange maladie, le dos d'Endicott pourrit lentement, dégageant une telle puanteur que personne ne pouvait s'approcher pour l'aider ou le réconforter. Encore plus remarquable fut la mort du major général Aderton, qui, lorsque Méridier fut pendu, dit en ricanant et de façon insultante qu'elle pendait comme un drapeau pour servir d'exemple aux autres, et qui aussi, lorsque Wenlock Christison fut condamné à mort, avertit les persécuteurs à cause des justes jugements de Dieu, et dit présomptueusement « Vous prononcez des malheurs et des jugements, et ceux qui vous ont précédé ont prononcé des malheurs et des jugements, mais les jugements du Seigneur Dieu ne sont pas encore venus sur nous. » Mais comment lui-même fut frappé par ces jugements, et servit d'exemple aux autres, nous allons le voir. Un jour, il venait de finir d'exercer les soldats sous ses ordres, et chevauchait fièrement vers sa maison. Comme il arrivait à l'endroit où les Quakers avaient été détachés, après avoir été fouettés tandis qu'on les traînait derrière une charrette, une vache vint et traversa devant lui. Son cheval prit peur et le jeta à terre si violemment qu'il en mourut, les yeux sortant de la tête, la cervelle sortant du nez, la langue hors de la bouche, et le sang coulant des oreilles. Lorsqu'on le releva et qu'on le porta au palais de justice, le lieu où il s'était activement employé à condamner des innocents à mort, son sang coula à travers le plancher, offrant aux spectateurs un exemple frappant de la vengeance divine contre un persécuteur audacieux et endurci, ainsi fait un terrible exemple de ce jugement divin qu'il avait ouvertement méprisé et traité avec dédain lorsqu'on l'en avait averti. Comme il avait été prophétisé, les jugements de Dieu allaient être répandus sur sa tête et ils fondirent sur lui soudainement et de manière inattendue. Et John Norton, le principal prêtre de Boston, mourut d'une manière semblablement soudaine. John Winthrop, gouverneur du Connecticut, avait instamment plaidé contre l'effusion du sang innocent. Lorsque Norton vit les magistrats hésiter à exécuter William Robinson et Marmaduke Stevenson, contre lesquels il les avait excités, il les poussa davantage et favorisa leur meurtre. C'est aussi lui qui, lorsque William Brand fut battu si barbarément avec une corde, dit que puisque William Brand s'efforçait de réduire leurs ordonnances évangéliques en bleu et noir, il était juste qu'on le battît lui aussi jusqu'à être bleu et noir. Mais le prêtre Norton fut alors frappé d'un coup qui le fit s'affaisser. Ayant été à son lieu de culte le matin, et ayant l'intention d'y retourner l'après-midi, tandis qu'il marchait dans sa maison, il poussa un grand gémissement, et appuyant sa tête contre le chambranle de la cheminée, on l'entendit dire « La main, ou les jugements du Seigneur sont sur moi ». Ce furent ses dernières paroles, il s'affaissa et serait tombé dans le feu si un vieil homme présent ne l'avait pas retenu. Extrait de Narrative of the Martyrdom at Boston, par John Richardson, 1831. John Danforth, membre de leur église et capitaine de leur forteresse à Boston, alors qu'il était couché sur son lit dans la chaleur du jour, fut frappé à mort d'une manière étrange par le tonnerre et la foudre. John Webb, avec d'autres hommes armés, conduisit Méridier à son exécution. Comme lui et d'autres s'occupaient à tuer une baleine ou un grand poisson, il fut soudain emporté dans la mer et se noya, ce qui fut une occurrence très étrange. Timothy Dalton, prêtre persécuteur à Hampton, et son frère Philmon, étaient tous deux d'ardents opposants du peuple appelé Quakers. Ils furent bientôt tous deux emportés de la terre vers leur prochaine destinée. Son frère Philmon fut tué par la chute d'un arbre sur sa jambe, et son frère par une autre visitation. Dalton était le prêtre qui avait qualifié de blasphème le fait de dire que la lumière intérieure était la lumière du Christ. Le capitaine Johnson, qui conduisit William Ledra pour qu'il soit mis à mort, fut ensuite frappé d'une maladie qui le priva de sa raison et de son entendement d'homme. Le maréchal Broome, d'Ipswich, pillard rapace des biens des Quakers, fut peu après cloué au lit par une maladie de langueur, où il demeura dans une grande affliction du corps et une horreur de conscience, et quitta ainsi cette vie. Edward Norrie, prêtre à Salem, qui excita là-bas les dirigeants et le peuple contre les innocents en disant « ce qu'il faisait aux Quakers n'était pas une persécution, mais une poursuite en justice. Plus tard, alors qu'il défendait les exécutions des Quakers, prêchant un sermon au peuple, il fut soudain frappé de mutisme dans sa chair astérisque et peu de temps après, il mourut. Astérisque ce n'est pas le premier exemple d'un prédicateur frappé de mutisme en chair alors qu'il prêchait contre les Quakers. Dans le journal de George Fox, il est rapporté le cas d'un prêtre en Écosse qui continua de prêcher contre les amis et contre la lumière de Christ Jésus, la qualifiant de naturelle. Finalement, un jour, dans sa prédication, il maudit la lumière et tomba comme mort dans sa chair. Le peuple le porta dehors, le coucha sur une pierre tombale et lui fit avaler des eaux de vie, ce qui le ramena à la vie. Puis ils le ramenèrent chez lui, mais il était sans esprit. Au bout d'un moment, il se dépouilla de ses vêtements, mit un plaid écossais et alla à la campagne parmi les femmes laitières. Après y être resté environ 2 semaines, il revint chez lui et monta de nouveau en chair. Alors le peuple attendait de lui quelques grandes manifestations ou révélations, mais au lieu de cela, il se mit à leur raconter quel accueil il avait reçu. Comment telle femme lui avait donné du lait écrémé, une autre du babeurre et une autre du bon lait. Ainsi le peuple fut obligé de le faire descendre de la chair à nouveau et de le ramener chez lui. Celui qui me fit ce rapport était Andrew Robinson, l'un de ses principaux auditeurs, qui vint ensuite à être convaincu et reçut la vérité. Il dit qu'il n'avait jamais entendu dire qu'il eût recouvré ses sens. Par cela, les gens peuvent voir ce qui advint à celui qui maudit la lumière, laquelle lumière est la vie en Christ, la parole. Et cela peut être un avertissement pour tous les autres qui parlent mal de la lumière de Christ. Le prêtre Mitchell, de Cambridge, peu après avoir cherché à pousser les dirigeants là-bas à la persécution, fut frappé par la main du Seigneur, et l'on rapporta de lui que sa langue, alors qu'il était encore vivant, devint extrêmement noire dans sa bouche, et il mourut dans cet état. Le vieux prêtre Wilson, qui injuriait les serviteurs du Seigneur lorsqu'on les conduisait pour être mis à mort, fut aussi, par la main du Seigneur, emporté, croit-on, d'une manière remarquable. Beaucoup d'autres noms mentionnés ici furent visités par la main du Seigneur par des jugements sur eux-mêmes et sur le fruit de leur corps, ôtant la vie à plusieurs de leurs premiers-nés par des morts inhabituelles. Et d'année en année jusqu'à ce jour 1702, depuis qu'ils ont assassiné les serviteurs du Seigneur, la main de la justice a frappé leur blé dans les champs, leur from, lorsque les pieds étaient près de fleurir, étant d'une manière étrange frappé de mort à la racine, et se desséchant ainsi, et devenant si répugnant une fois fauché. New England Judged, page 485. Écoutez une description des terribles calamités et détresses qui, pendant une longue suite d'années, continuèrent sur cette province, transcrite de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre de Cotton Mather imprimée en 1702. Car depuis plus de 20 ans maintenant, les coups destructeurs du ciel sur les affaires séculières de ce pays ont été tels qu'ils ont plutôt freiné qu'augmenté sa croissance. Que ce fléau frappant le principal grain continue jusqu'à ce jour, comme un juste jugement, ne fait aucun doute, à cause de leur méchanceté et de leur cruauté, en persécutant et en mettant à mort les serviteurs du Seigneur. Les nombreuses calamités qui, depuis lors, n'ont cessé de ravager le pays, ont tellement entravé sa croissance que ses progrès ultérieurs n'ont gardé aucune proportion avec ceux du commencement. Les calamités qui ont emporté les habitants de nos diverses villes n'ont pas toutes été d'une même sorte. Et toutes nos villes n'ont pas une part égale dans aucune sorte. Des maladies pestilentielles ont fait de terribles ravages en beaucoup d'endroits, où les bien portants n'étaient peut-être pas assez nombreux pour soigner les malades, tandis que d'autres n'ont pas reçu une seule atteinte de l'ange de la mort. Et l'épée a fauché des dizaines en maint lieu, quand ailleurs peut-être, on n'a pas perdu un homme par cette vengeur. Il y a eu plusieurs années où la terrible famine a durement frappé la ville. L'ange de la mort a souvent lancé la flèche de la mort au milieu de la ville. La variole a été, en particulier, à 4 reprises, un grand fléau parmi nous. Jamais aucune ville sous la voûte des cieux n'a été plus exposée à être réduite en cendres, soit par la négligence, soit par la méchanceté de ceux qui y dorment. 10 fois le feu a causé parmi nous des ruines notables, et notre bon serviteur a été presque notre maître, à Boston. Tu as vu la vanité de toutes les possessions mondaines, un matin fatal qui mit en ruine 80 de tes maisons, et 70 de tes entrepôts, il n'y a pas 19 ans, te l'a fait lire en caractère de feu, et une immense flotte de tes navires, s'ils étaient réunis, qui ont péri dans la récente guerre, t'en a fait lire davantage. Il raconte comment la colère dévorante de Dieu s'abat chaque jour sur les jeunes hommes, disant « La Nouvelle-Angleterre a été comme une maison chancelante, ses fondations mêmes ont tremblé, mais la maison ainsi renversée par la colère de Dieu a été comme la maison de Job. Elle s'écroule sur les jeunes hommes, et ils sont morts. Les désastres frappant nos jeunes gens se sont tant multipliés qu'il y a peu de parents parmi nous qui ne descendent au tombeau le cœur blessé. Leurs gémissements quotidiens sont « Ah, mon fils retranché dans sa jeunesse !»« Mon fils, Sur terre, certains des principaux grains, surtout notre blé et nos pois, subirent un fléau notable, sécheresse, dont nous ne sommes pas délivrés jusqu'à ce jour. Et outre ce constant courroux du ciel sur notre agriculture, revenant chaque année, peu d'années se sont écoulées où des vers, ou des sécheresses, ou quelques désastres dévorants ne se soient abattus sur le labeur du cultivateur. Sur mer, nous fûmes visités par de nombreux naufrages, des ennemis s'attaquaient à nos navires et à nos marins, et les affaires du marchand étaient entravées par des pertes au loin, ou par des incendies éclatant dans les principaux centres de commerce au pays, qui dévoraient leurs biens par des désolations encore plus coûteuses. Ni la terre ni la mer ne proclamèrent davantage la controverse de notre Dieu contre nous que cet autre élément, l'air, dont les vapeurs contagieuses firent parfois devenir épidémiques parmi nous plusieurs maladies pestilentielles. Oui, les jugements de Dieu, ayant accompli sur nous d'abord l'œuvre du papillon de nuit, passèrent à celle du lion dans des guerres lamentables, où les Indiens barbares massacrèrent cruellement plusieurs centaines de nos habitants et semèrent sur des villes entières de misérables ruines. Témoignage de Joseph Huxley concernant le jugement qui est tombé sur le pays autour de Boston, 1771, J. O. dit à Boston, il semble être taché comme du sang des martyrs. Un ancien ami à Casco, James Wilmslow, me dit que son père lui racontait souvent l'exécution et les souffrances de nos chers amis à Boston, que son père, à cette époque, était apprenti dans cette ville et les vit tous pendus. J'ai vu l'endroit près de celui où ils souffrirent, qui est maintenant assez largement occupé par des bâtiments. Je dois aussi remarquer, comme je l'ai lu auparavant et comme on me l'a également rapporté, qu'alors qu'avant que nos amis ne fussent mis à mort en ce lieu, le sol produisait d'ordinaire de très bonnes récoltes de blé, même près de la ville, mais depuis ce temps-là, il n'y en a eu aucune de notable. Benjamin Bagnall, un ancien et honorable ami à Boston, chez qui j'ai logé, m'a dit que l'un de ses voisins lui avait raconté que lui-même, il y a seulement 3 ans, avait eu une perspective très réjouissante d'une très bonne récolte de blé, mais que lorsque l'épi se forma, il se couvrit de moisissures et aboutit à peu ou rien. J'ai aussi fait mon observation, étant en voyage religieux dans ces régions, au 7e mois 1771, et j'ai constaté qu'il ne poussait aucun blé dans un rayon de 20 milles autour de la ville de Boston. Pike et Huxley, série de J. Barclay, page 365-366. John Churchman, qui fit une visite religieuse en Nouvelle-Angleterre en 1742, dit avoir vu du blé dans ce pays qui semblait bien poussé, mais que dans l'épi au lieu de grain, il n'y avait guère autre chose qu'un petit charbon noir en forme de grain. Et il raconte en outre que 2 personnes, étant à Boston, eurent la curiosité de voir l'ancienne prison d'où les amis furent conduits pour être pendus, à cause de leurs témoignages religieux et de leurs principes. Un habitant de Boston les accompagnant, à leur arrivée, l'un du groupe dit par hasard « Est-ce la prison où étaient les amis qui furent pendus ?» et reçut une réponse inattendue d'une femme âgée assise à la porte, en train de tricoter. Sa réponse fut « Oui, c'est bien celle-là. » Et nous le savons douloureusement, car une malédiction est sur la terre depuis lors, si bien qu'elle ne peut porter du blé sans être frappée par un brûlant soleil, et nous devons aux autres colonies notre pain. On croit que l'effet de ce jugement remarquable s'est poursuivi jusqu'à ce jour écrit en 1831. Ainsi les habitants de la Nouvelle-Angleterre furent, d'une manière extraordinaire, affligés et punis. Pourquoi une suite si funeste de calamités, telles que la famine, la peste, le feu et l'épée, aurait dû, d'une manière si marquée et exemplaire, concourir à la destruction de ce peuple plus que de tout autre, est une question qui naît naturellement de ce qui précède. Ceux qui sont disposés à faire cette enquête peuvent y être aidés en lisant les récits donnés dans la collection de Bess des souffrances du peuple appelée Quakers au sujet de la cruelle persécution que les amis durent endurer pour leur conscience et leur religion. Si après un examen mûri de la nature de leurs souffrances et des causes et circonstances qui les accompagnèrent, il apparaît qu'ils furent persécutés et mis à mort tout en étant innocents et justes, qu'ils donnèrent leur vie en opposition à des lois injustes et méchantes, formés contre eux par les dirigeants, les prêtres et le peuple de la Nouvelle-Angleterre, avec le dessein malveillant d'arracher et d'extirper totalement ce qui témoignait ouvertement contre eux et contre leur corruption, qu'ils furent soutenus dans toute leur affliction par une puissance divine. Un péché criant, pour lequel la vengeance divine a visité les nations, comme l'atteste le témoignage des Saintes Écritures, Joël 3:19, l'Égypte sera une désolation, et Édom un désert désolé, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont versé le sang innocent dans leur pays. De même, la destruction de Jérusalem est attribuée, l'âme 4:13, aux péchés de ses prophètes et aux iniquités de ses prêtres, qui ont versé le sang des justes au milieu d'elle. Mais nous ne présumons pas, en ce cas, faire une détermination positive, nous préférons plutôt dans la bassesse et l'humilité d'esprit reconnaître avec le psalmiste que les jugements du Seigneur sont un grand abîme, psaume 36:6, et avec l'apôtre Paul dans une sainte admiration dire Rome 11:33-36, « Ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ». Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il lui soit rendu, car c'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire pour toujours. Amen. Soule confirme les jugements sur Boston, mais toute la région de Boston subit un jugement encore plus étrange. Pourtant, une chose remarquable que je puis mentionner ici, lorsque je l'entendis pour la première fois, je ne puis pleinement y ajouter foi, mais jugeant que cela valait la peine d'en faire une enquête approfondie, je le fis non seulement par écrit, mais aussi de la bouche de personnes qui en avaient été témoins oculaires ou qui en avaient été informées par de tels témoins, et de je tirer cette observation concordante, à savoir que la campagne autour de Boston était autrefois un sol très fertile produisant un excellent blé, mais que... Mais comme il y a eu tant d'exemples répétés d'infertilité plus près de la ville, les anciens qui vivent encore et se souviennent des premiers temps s'accordent généralement dans l'opinion que c'était un jugement du ciel et une malédiction sur la terre, à cause de l'effusion du sang innocent à Boston. Je tins ce récit de tant de personnes dignes de foi, bien que l'une ne connût rien de l'autre, tant leurs époques différaient, et ce qu'elles me dirent s'accordant si bien sur l'essentiel que je ne pouvais que le croire, bien que je n'y eusse pas d'abord ajouté foi par crédulité, et j'ai donc été d'autant plus exact dans mon enquête, de sorte que je ne puis plus mettre en doute le fait, mais cela me paraît être un châtiment de cette soif de sang qui a cessé depuis longtemps maintenant. Cher lecteur, ceci met fin aux vicieuses persécutions des Quakers en Amérique. Si vous souhaitez continuer à lire l'histoire de Bowden, elle est disponible en cliquant ici, puis en allant à la page 278. Mais plus important encore, je vous exhorte à écouter les paroles du Christ, « Venez à moi, apprenez de moi, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Cherchez le Seigneur et sa force, désirez ardemment et cherchez sa face, afin d'être continuellement en sa présence. » Fin. Le but de ce site web est de montrer comment se libérer du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.